Radio Prague, les informations.
Bonjour, la Chambre des députés a élu ses vice-présidents à l'exception de Petr Fiala de l'EDS. 9 candidats figurent sur la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle. En football, le Viktoria Plzeň a décroché son titre pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Réunie pour la 3e fois au cours de cette semaine à l'occasion de sa session inaugurale, la nouvelle Chambre des députés issue des élections d'octobre a désigné ses vice-présidents. Au premier tour, 4 des 5 candidats ont été élus, à savoir l'ancien président social-démocrate de la Chambre des députés, Jan Hamáček, qui a recueilli 143 voix sur 195 parlementaires présents. D'autres postes de vice-président de la Chambre basse seront occupés par le chef des communistes, Wojciech Pikal du parti Pirate et par Tomio Okamura du parti SPD. En revanche, le 5e candidat, Petr Fiala du parti civique démocrate ODS, le 2e parti le plus fort à la Chambre des députés après le mouvement ANO, a échoué dans les 2 tours de l'élection. Le 5e poste de vice-président de la Chambre basse restera inoccupé jusqu'à la tenue d'une nouvelle élection prévue pour la semaine prochaine. L'échec du président de l'ODS, Petr Fiala, a été contesté par les représentants des partis réunis au sein du bloc démocratique ainsi que par les sociodémocrates et les pirates. Le ministère de l'Intérieur a publié ce vendredi la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Ce sont effectivement les 9 candidats déjà connus qui participeront au scrutin. Parmi eux, l'actuel chef de l'État Miloš Zeman, l'ancien directeur de l'Académie des sciences Jiří Drahoš, le musicien et homme d'affaires Michal Horáček, l'ex-premier ministre Mirek Topolánek ou encore l'ancien ambassadeur tchèque en France Pavel Fischer. Les 11 autres candidatures déposées au ministère de l'Intérieur n'ont pas rempli les conditions nécessaires pour pouvoir être validées par le ministère. Pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, les candidats devaient recueillir les signatures d'au moins 50 000 personnes en âge de voter ou obtenir le soutien de 20 députés ou 10 sénateurs. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu pour les 12 et 13 janvier prochains. Arrêté en octobre 2016 par la police tchèque dans un hôtel pragois et placé en détention provisoire, le hacker russe Yevgeny Nikulin peut être extradé vers les États-Unis, a décidé ce vendredi la Cour supérieure de Prague. Auparavant, la justice tchèque avait également autorisé son extradition vers la Russie, Yevgeny Nikulin étant réclamé par les deux pays. La justice américaine l'accuse d'avoir piraté les ordinateurs de plusieurs entreprises, refusant d'être à l'origine de ces cyberattaques, Yevgeny Nikulin souhaite retourner en Russie. La décision relative à son extradition relève désormais de la compétence du ministère tchèque de la Justice. C'est par une visite à Yekaterinbourg que le chef de l'État Miloš Zeman a terminé ce vendredi son séjour en Russie, après avoir rendu hommage aux légionnaires tchécoslovaques morts dans les combats avec l'armée rouge après la Première Guerre mondiale. Le président tchèque a assisté à une rencontre des entrepreneurs tchèques avec les représentants des entreprises des régions de l'Oural et de la Sibérie occidentale. À Yekaterinbourg, Miloš Zeman a aussi visité l'usine aéronautique USGA qui participe à la production des avions tchèques L410. En football, le Viktoria Plzeň a validé son ticket jeudi soir pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Le leader du championnat tchèque a pour cela remporté une victoire convaincante devant son public face au premier du groupe, le Steaua Bucarest, 2-0. C'est la première fois en 4 matchs cette saison que les Tchèques parviennent à dominer les Roumains. Côté météo, samedi, jour de la fête des Catechénas, le temps sera couvert avec des averses sur la majorité du territoire. Les températures seront comprises entre 7 et 11 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite de notre programme avec Alžběta Rušková.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour et bienvenue chers amis à l'écoute de Radio Prague, un magazine consacré à l'actualité tchèque. Avant de passer au programme du jour, remercions Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. Ce vendredi, Bohuslav Sobotka participe à Bruxelles au sommet du partenariat oriental de l'Union européenne. Ce sera donc aussi le premier thème de notre émission. Avant de passer au rachat de la porcherie de l'été, une porcherie située sur le site d'un ancien camp de concentration destiné aux Roms pendant la Seconde Guerre mondiale. Un contrat de vente a en effet été signé ce jeudi par les représentants de l'État tchèque et de la société AKP, le propriétaire de l'exploitation. Et place enfin à notre traditionnelle revue de presse dans laquelle il sera question notamment de la nouvelle Chambre des députés et du gouvernement sortant de Bohuslav Sobotka. Bonne écoute à toutes et à tous. Le premier ministre tchèque Bohuslav Sobotka était ce vendredi à Bruxelles pour participer au 5e sommet du partenariat oriental de l'Union européenne. L'objectif affiché était de relancer ce système d'échange avec les anciennes républiques soviétiques qui battaient de l'aile depuis le dernier rassemblement en 2015, notamment à cause de la sévère dégradation des relations avec la Russie. Sébastien Casabon nous a rejoint au studio et nous en dira davantage.
The first summit in a new era of our partnership, a new stage of our partnership.
En 2015, à Riga, en Lettonie, Federica Mogherini, Donald Tusk ou encore Petro Poroshenko s'étaient tous félicités des progrès réalisés lors du sommet du partenariat oriental, notamment sur le dossier ukrainien. Pourtant, depuis, ce programme d'accord européen avec les pays situés à l'est des frontières de l'Union n'a plus connu de succès notable. Pour rappel, le partenariat oriental est un programme européen visant à renforcer les liens entre l'UE et 6 anciennes républiques soviétiques, la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Créé le 7 mai 2009, le partenariat n'a cependant que lentement progressé en 8 ans et pour cause, beaucoup de ces pays sont liés à la Russie qui voit d'un mauvais œil la volonté de l'Union à se rapprocher des anciennes républiques.
Pourquoi la République tchèque a particulièrement à cœur le partenariat oriental ?
La Tchéquie a en effet un lien ténu avec ce programme européen pour la simple et bonne raison qu'il a été réalisé à son initiative. Soucieuse de déminer en 2009 le conflit gazier russo-ukrainien et surtout de renforcer la politique de voisinage européenne, la République tchèque, alors en charge de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, avait permis la création d'une plateforme d'échange avec ces 6 pays. L'inauguration du partenariat oriental avait d'ailleurs eu lieu à Prague, et depuis le pays s'investit considérablement dans cet instrument qui demeure l'une des principales formes de contact de l'Union avec l'espace post-soviétique.
Quels étaient donc les enjeux de ce 5e sommet ?
Bien plus modeste que les précédents, le descriptif officiel omet de nommer les fameux conflits périphériques auxquels doit faire face l'Union et dans lesquels la Russie a sa part de responsabilité. La guerre du Donbass, bien sûr, mais aussi le conflit du Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les républiques russes en Géorgie, non reconnues par la communauté internationale, ou encore le séparatisme de la Transnistrie vis-à-vis de la Moldavie. De la même façon, aucune mention n'est faite de l'annexion russe de la Crimée. Le sommet a par ailleurs été critiqué par plusieurs organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme qui reprochent à l'Union européenne de convier à la table des personnalités comme Ilham Aliyev, président autocratique azéri, ou Alexandre Loukachenko, souvent présenté comme le dernier dictateur d'Europe, même si ce dernier a décliné l'invitation. L'Union européenne met donc plus l'action sur les problèmes internes aux pays, tels que la lutte contre la corruption ou l'indépendance de la justice, plutôt que sur leurs problèmes régionaux avec leurs grands voisins.
Il s'agit de l'un des derniers déplacements du Premier ministre Sobotka.
Effectivement, la fin de mandat se rapproche pour Bohuslav Sobotka. Le sommet constitue donc une bonne occasion d'aborder cette fin avec un événement cher à la République tchèque et qui est à l'image de la politique pro-européenne et ouverte sur l'Europe orientale du Premier ministre, parfois difficile à concilier avec celle d'un Miloš Zeman qui achève son séjour en Russie, illustrant ainsi les divergences récurrentes entre le chef de l'État et le gouvernement finissant en matière de politique étrangère. Bohuslav Sobotka se rendra ensuite lundi à Bucarest pour y rencontrer son homologue chinois Li Keqiang et discuter de l'initiative économique 16+1 qui lie 16 pays d'Europe centrale, orientale et balkanique à la Chine.
C'est la fin d'un feuilleton long de plus de 20 ans et qui n'était pas tout à fait à la gloire de la République tchèque. Le gouvernement tchèque a enfin signé jeudi le contrat d'acquisition de la porcherie située à Leté, en Bohême du Sud, sur le site d'un ancien camp de concentration pour les Roms, qui était considéré comme une insulte à la mémoire des exactions commises à leur encontre durant la Seconde Guerre mondiale. Pierre Maignan.
Nepodařilo se, protože se nenašly dostatečné finanční prostředky.
Ne, ještě se to neprobíralo.
Ty prostředky v tuto chvíli ve státním rozpočtu nejsou.
Le montage réalisé par la télévision tchèque est assez parlant. Malgré des promesses répétées, Vratislav Mináš, le premier ministre en 2003, comme ses successeurs Mirek Topolánek en 2009 et Petr Nečas en 2012, n'avait rien fait, invoquant un manque de moyens financiers pour mettre fin à une situation jugée scandaleuse par les associations de défense des droits des Roms. Le gouvernement finissant de Bohuslav Sobotka avait lui aussi promis de régler enfin la question, et contre toute attente, il a tenu parole. Jeudi, le ministre de la Culture, Daniel Herman, a signé le contrat d'acquisition de l'exploitation porcine avec ses propriétaires, les représentants de la société ACPI. Le chrétien démocrate n'était pas peu fier de voir l'affaire aboutir.
C'est symbolique. Je suis très heureux que nous ayons pu payer cette dette et aller jusqu'au bout. J'apprécie le fait que cela intervient à un moment proche de la fin de mon mandat. Je considère que c'est un honneur d'avoir pu être celui qui aide à accompagner ce dossier jusqu'à son terme.
Il en a pourtant fallu des mois de négociations et le ministre insiste sur ce point. Le contrat signé est le fruit d'un compromis. L'État va débourser 450 millions de couronnes, près de 18 millions d'euros pour devenir propriétaire du site, alors qu'il était évalué à quelque 200 millions de couronnes et que le ministère des Finances insistait pour que cette estimation réalisée par la justice soit respectée. La Tchéquie devra en plus payer quelques dizaines de millions supplémentaires pour la destruction des bâtiments et la mise aux normes environnementales du complexe. De son côté, le patron d'ACPI, Jan Čech, satisfait de l'accord trouvé, indique que la phase de déménagement a déjà débuté.
Nous avons commencé à réduire la voilure. Depuis début octobre, la porcherie n'accueille plus de nouveaux animaux. Il y avait au total 13 000 individus sur le site et en fonction de l'avancement de leur cycle de vie, le dernier animal quittera la ferme à la fin du mois de février.
L'entreprise cédera définitivement le site à la fin du mois de mars prochain. Une nouvelle vie débutera pour lui puisque le musée de la culture Rom, également signataire du contrat, aura la tâche d'y concevoir un mémorial du génocide tzigane. Il faudra cependant encore du temps avant qu'il ne voie le jour, ainsi que l'a indiqué la directrice de ce musée basé à Brno, l'historienne Jana Horvatova.
Dans cette première phase, nous voulons avant tout être à l'écoute des enfants survivants, de tous les survivants, mais également des activistes, des spécialistes et des autres acteurs de la société civile pour que nous puissions avoir une vision du projet. Et c'est seulement ensuite que nous passerons à l'étape de la réalisation. Et bien sûr, nous serons limités au niveau de l'argent nécessaire à cette réalisation.
Do realizace. Samozřejmě budeme omezeni finančními prostředky, které jsou na to určeny.
Le mémorial permettra notamment de rappeler que entre août 1942 et mai 1943, un peu plus de 1300 Roms tchèques, dont plusieurs centaines d'enfants, ont été détenus dans le camp de Leti, souvent gardé par des douaniers tchèques. 327 prisonniers sont morts sur place, tandis que plus de 500 autres y ont séjourné avant d'être transférés à Auschwitz. Le commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, le Letton Nils Mujnik, suit de près les développements autour de l'ancien camp de Leti. Dans un communiqué publié jeudi, il se félicite des démarches enfin entreprises par l'État tchèque. Selon lui, l'érection d'un mémorial est cruciale pour la compréhension du sort fait aux Roms pendant la Seconde Guerre mondiale, en même temps qu'elle permettra d'envoyer un message positif pour la société tchèque dans son ensemble. Fin de citation.
Vous écoutez Radio Prague, merci de votre attention et on passe à la deuxième partie de notre programme. La Chambre des députés nouvellement constituée semble plus émiettée que jamais. Nous vous en dirons plus dans cette nouvelle revue de presse qui vous offrira également une réponse à la question de savoir pourquoi il n'y a aucune femme parmi les 9 candidats présidentiels. Ensuite, on s'intéressera à un bilan du cabinet sortant de Bohuslav Sobotka et à un regard sur les démarches concernant la précarité du logement. Quelques mots enfin au sujet des jeunes mères qui préfèrent laisser leurs compagnons s'occuper de leurs enfants. Cette revue de presse est présentée par Alena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Le dit bloc démocratique composé de 4 partis de droite, l'ODS, les chrétiens démocrates, Top 09, le mouvement des maires et indépendants, devrait jouer un rôle marginal à la Chambre des députés. En effet, sur la totalité de 200 députés, il n'en compte que 48. C'est ce qui ressort d'une analyse publiée sur le site de l'hebdomadaire Reflex, alors que se déroule la session inaugurale de la Chambre et que Radek Vondráček du mouvement ANO a été élu mercredi à sa tête. La position de cette coalition de droite dans l'opposition sera alors on ne peut plus difficile, selon l'auteur de cet article. Il poursuit.
Le problème concernant le bloc démocratique, c'est que les revendications qu'il voudra proposer risquent d'être balayées par le mouvement ANO, les communistes et le parti populiste xénophobe SPD, une alliance qui semble s'être tacitement dessinée à la Chambre des députés. Par ailleurs, le bloc démocratique ne pourra pas influencer ou très peu deux questions qui sont pour la République tchèque essentielles. Celle d'abord de savoir si le prochain gouvernement d'Andrej Babiš obtiendra la confiance et celle concernant la nouvelle levée de l'immunité parlementaire de ce dernier et de sa main droite Jaroslav Faltinek, accusés tous les deux dans une affaire de fraude aux subventions européennes.
Le texte indique enfin que la Chambre des députés est particulièrement émiettée. Pour cette raison, lors de nombreux votes, on pourra s'attendre à la création de coalitions aléatoires qui finalement profiteront à Andrej Babiš, car il est le seul à pouvoir négocier des contreparties sur tel ou tel sujet. Comment expliquer le fait qu'il n'y a aucune femme parmi les 9 candidats à la prochaine élection présidentielle prévue en Tchéquie pour le mois de janvier prochain? L'hebdomadaire Respect a posé la question à 4 représentantes de différents domaines de la vie publique. 2 d'entre elles, une sociologue et une activiste, considèrent que tout ce qui se rapporte à cette élection reflète la situation au sein de la société ou encore qu'elle témoigne d'une certaine résignation sociale et politique. L'absence des femmes serait alors une des caractéristiques les plus flagrantes de cette situation. Et voici une des explications apportées dans ce contexte.
En Tchéquie, on trouve beaucoup de femmes remarquables qui font preuve de grandes qualités, mais elles n'ont pas assez de volonté de s'engager dans un milieu majoritairement masculin. En outre, beaucoup d'elles redoutent le sexisme qui prédomine dans l'opinion publique. Or, la nécessité de déployer de grands efforts pour prouver que les capacités n'ont rien à voir avec le genre s'avère pour elles trop fatigant et frustrant.
Dans cette mini-enquête, on peut lire également que ce qui paraît plus inquiétant encore que l'absence des femmes parmi les candidats présidentiels, c'est le fait que la Chambre des députés nouvellement constituée ne fait pas apparaître une nouvelle génération de femmes politiciennes. Le site de l'hebdomadaire Respect a pour sa part publié un entretien avec Vladimir Špidla, le conseiller du Premier ministre social-démocrate Bohuslav Sobotka, pour connaître son appréciation des 4 années au pouvoir de la coalition sortante. Rappelons qu'aux élections législatives du mois d'octobre, ce parti a remporté un très mauvais résultat, avec seulement près de 7% des suffrages. Cet ancien commissaire européen a répondu.
Ce gouvernement est l'un de ceux qui ont le mieux réussi depuis 1989. Je dirais même qu'il a été le meilleur. Le gouvernement de Petr Pithart avait aussi été bon, car il avait géré avec succès la transition difficile depuis un régime autoritaire vers la démocratie. En ce qui concerne les succès à mettre sur le compte du gouvernement Sobotka, il faut souligner un taux de chômage particulièrement bas, une très bonne condition économique, l'augmentation des salaires et des retraites, la diminution de la criminalité. À noter aussi que nous avons de bonnes relations avec nos voisins. Tout ce qui peut être mesuré présente donc des résultats excellents ou au moins satisfaisants.
Un sentiment général d'incertitude, d'après Vladimir Spidla, c'est ce qui caractérise, en dépit du précédent constat, le climat au sein de la société tchèque. Il l'explique par l'existence de phénomènes nouveaux comme la numérisation, l'intelligence artificielle ou la mondialisation. Dans ce contexte, à force de perdre leur certitude, les gens se détournent des partis classiques en attendant un messie qui pourra les sauver. Ceci dit, Vladimir Spidla admet qu'il n'arrive pas à parvenir à une interprétation raisonnable de la situation présente dans la société tchèque. L'année dernière, le gouvernement a déclaré sa volonté de respecter son engagement à l'égard de l'Union européenne consistant à offrir d'ici l'an 2020 des logements standards à près de 6000 familles qui vivent avec leurs enfants dans des centres d'hébergement. Un engagement qui s'annonce difficile, car à ce jour, il n'a pas réussi à imposer une loi sur le logement social, un sujet traité dans le journal internet Denik Referendum.
Les sans-abri, les personnes qui vivent dans des centres d'hébergement ou d'asile. En République tchèque, il y a 200 000 personnes qui sont touchées par la précarité du logement, un nombre impressionnant qui ne cesse d'ailleurs de croître. L'augmentation du prix de l'immobilier n'est que l'une des causes de cette situation. Une législation concernant le logement social faisant défaut, le gouvernement, de concert avec les communes, cherche désormais des inspirations auprès d'experts étrangers. Tel était aussi le but d'une conférence internationale qui s'est tenue récemment à Prague et lors de laquelle des experts de Finlande, de France et des États-Unis ont présenté leurs stratégies et recommandations.
Avec un projet pilote impliquant une cinquantaine de familles menacées, c'est la ville de Brno qui semble avoir tiré le meilleur parti de ces expériences internationales. Le but du projet est d'aider les familles qui peinent à payer leur loyer à conserver leur logement. Un texte mis en ligne sur le site actuarania.cz se penche sur un phénomène qui semble être aujourd'hui plus répandu que jamais, mais auquel pourtant la société ne prête que peu d'attention. Il concerne ces jeunes mères qui, à un certain moment, décident de quitter non seulement leur mari, mais aussi leurs enfants pour aller vivre seules ou mener une nouvelle vie. L'auteur de l'article écrit.
Lorsqu'il y a 10 ans, une jeune femme, actrice connue et mère de 3 enfants en âge d'aller à l'école, a soudainement quitté son foyer pour aller vivre seule afin de pouvoir mieux s'occuper d'elle-même, son acte a été généralement très mal perçu. Si à l'époque il s'agissait d'un cas isolé, aujourd'hui une telle décision n'étonne guère. Ces tendances touchent en premier lieu la génération des femmes qui sont nées dans les années 1980. Une fois divorcées, ces femmes déménagent d'habitude dans un studio ou dans un petit appartement, tantôt pour pouvoir enfin vivre ou pour retrouver du calme, tantôt pour trouver un équilibre ou pour explorer leur fort intérieur. Leurs enfants, elles préfèrent les voir sporadiquement et c'est à leur mari ou conjoint de s'en occuper.
Illustrant cette tendance par de nombreux exemples tirés de son entourage, l'auteur de l'article mis en ligne sur le site actuarnia.cz remarque qu'il s'agit d'un phénomène aussi intéressant que dangereux. Comme tel, il mériterait une étude approfondie et de conclure.
Nous vivons à une époque spéciale où chaque personne peut choisir librement le modèle de vie qui lui convient le plus. Or, il faut se demander pour quelles raisons c'est justement ce modèle-là qui plaît tant à un certain nombre de mamans tchèques.
Voilà. Voilà, c'est avec la revue de presse que s'achève pour aujourd'hui ce programme. Alžbieta Ruškova vous remercie de votre attention. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site de Radio Prague au www.radio.cz/fr ainsi que nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ahoy!